Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va à Angers. On est avec Anthony de SCO 1919. Salut à toi.
Bonjour Anthony.
Bon, alors on va repartir comme avec tous les autres clubs hein, sur la saison passée, sur l'impact des départs, surtout à Angers, et puis des arrivées aussi, parce qu'il y en a eu. Bon, on va directement partir avec le gros départ, le départ pour Lyon de Jeffrey Nadélaïde, en fin de mercato en plus. C'est une grosse perte là pour Angers. Comment on a vécu ce départ-là pour 25 millions presque.
Ouais, alors effectivement, quand on regarde le montant du transfert, c'était quelque chose d'incroyable pour le SCO, puisque ça a été la vente la plus importante que le club n'a jamais réalisée. Donc voilà, puis c'est une somme par rapport au budget du SCO, c'est une somme qui est extrêmement conséquente. Donc ça, c'était plutôt un point positif. Par contre, c'est vrai que au moment où il est parti, bon, ça faisait une saison que Jeff était avec nous et il avait pu démontrer, enfin une saison plus les mois de préavant au niveau d'Arsenal, mais donc il avait pu démontrer des qualités footballistiques très très intéressantes. Il avait déjà bien progressé, c'était super bien intégré dans le club. Et voilà, et on a eu sur le premier match à domicile un feu d'artifice. On a eu un match incroyable contre Bordeaux. Et Jeff, là, il a éclaboussé de sa classe complètement cette rencontre, en marquant un but, en faisant des passes D. Enfin, c'était vraiment exceptionnel. Et on a cru à un moment donné qu'on pourrait le garder et qu'on vivrait une saison exceptionnelle. Et puis, voilà, patatras, d'abord des grosses, grosses rumeurs sur un départ possible à Monaco. Et puis, finalement, c'est Lyon qui emporte le morceau. Et là, on a eu un gros coup de barre en fait. On s'est cru peut-être un peu trop beau à pouvoir garder un tel joueur dans notre effectif. Et c'est vrai que alors qu'on avait fait un très très bon début de saison, on est allé à Lyon et là, on s'est pris une grosse raclée. Je pense qu'il n'y a pas que les
Évidemment.
supporters qui ont pris un coup derrière. Ouais, il n'y a pas que les supporters qui ont pris un coup derrière la tête. Je pense que le club aussi, le coach aussi, ça n'a pas trop été évoqué sur le moment, mais des mois après, quand on revenait un petit peu sur les bilans et sur le déroulement de la saison, on a vu que bah, notamment le coach, hein, Stéphane Moulin, bah, il comptait sur ce joueur-là et que son départ a un petit peu tout chamboulé, quoi.
Surtout que dans le même temps, sur le même mercato, bon, c'était un peu avant, mais quand même, tu as le départ aussi de Flavien Thiès qui part à Rennes pour 9 millions d'euros. C'est important ces deux départs là, Flavien Thiès à Rennes
Ouais, tout à fait.
l'attaque de Danger, quoi.
Ouais, c'est ça. Ce sont deux animateurs offensifs qui avaient aussi une belle touche technique qui était bien intégrée dans l'effectif. Et alors Flavien, c'est vrai qu'on le savait puisque bon, c'est un petit peu le entre guillemets le rôle du club, c'est-à-dire qu'on prend des jeunes joueurs dans un niveau inférieur ou et il progresse en fait avec le club. Et Flavien, il lui a fallu 3 ou 4 saisons comme ça pour arriver à maturité. Donc on savait que là, c'était son moment. Il y a un gentleman agreement entre le club et les joueurs qui fait que une fois qu'ils ont dépassé un cap, ils peuvent aller voir ailleurs. C'était le cas de Flavien. Ce sera le cas sans doute cette année pour Santa Maria, mais on y reviendra plus tard. Et voilà. Et bon, en plus, son départ, il est intervenu relativement tôt dans la saison. Donc ça laisse le temps au club de trouver entre guillemets son remplaçant et puis aux supporters de s'habituer à ce départ. Là, voir partir un joueur que le championnat a commencé et de le voir flamber comme ça, comme il a flambé sur les premières rencontres, ouais, c'était un coup de tonnerre un peu plus important pour le départ de Diaf.
Et donc du côté des arrivées, un mercato donc qui est en grande partie fait à Nîmes. Avec Bobichon, Alioui, Sadatioub aussi. Il y a l'arrivée de Casimir Ninga également. Quand on est supporter, on pense que ces deux gros départs ont été compensés ou pas?
Ah bah, c'est difficile à dire. Disons qu'il y a des promesses dans les joueurs qui sont arrivés. Si je prends par exemple Alioui, c'est quand même un attaquant de grande classe qui avait montré de très très belles choses à Nîmes, même s'il s'était blessé assez sévèrement, ce qui fait que sa saison précédente avait été un petit peu en demi-teinte. Hein, il avait repris tardivement. Mais bon, il avait l'avantage entre guillemets d'arriver au club entre guillemets libre, donc sans débourser de commission de transfert ou en tout cas pas auprès du club précédent. Tube, on le connaissait pour sa capacité à aller un petit peu renverser les défenses adverses. On l'avait d'ailleurs subi nous-mêmes quand on était allé jouer là-bas, il nous avait fait mal. Voilà, après, c'était pas des joueurs du niveau et de la classe de ceux qui sont partis, mais en s'intégrant à un collectif, on sait que Moulin, il peut faire un amalgame et une mayonnaise avec tous ces joueurs qui peut rendre intéressant et que voilà, ces joueurs-là, ils avaient aussi vocation à un peu s'intégrer et à augmenter leur niveau de jeu. Pour Bobichon, Antonin Bobichon, je pense que c'était plus un, entre guillemets, sans lui faire offense, un joueur de complément à l'effectif, un joueur de club sérieux sur lequel on peut compter. Et il a exactement rempli ce rôle cette année, même si peut-être il aurait préféré un petit peu plus de temps de jeu. Mais quand il est rentré, enfin voilà, excellent état d'esprit. Et puis quand il est rentré, il a toujours répondu présent. Bon, Ninga, c'était un petit peu d'interrogation quand il est arrivé. Et je te dirais qu'une saison après, c'est toujours un petit peu d'interrogation. C'est un joueur que, à titre personnel, moi, j'ai pas encore réussi à cerner, capable de coups de génie comme sur ce match face à Saint-Étienne où il a
Ouais,
marqué
c'est clair.
3 buts en 10 minutes une fois rentré en cours de jeu, et puis de prestations relativement indigentes où il oublie peut-être le collectif au profit de courses un peu folles, et finalement ça nuit à l'efficacité.
D'accord. Du coup, on va revenir sur le début de saison d'Angers. Bon, à part le 6-0 dont tu nous parlais à Lyon, c'est un début de saison qui est quand même plutôt intéressant. Il y a victoire contre Bordeaux, donc comme tu le disais, Metz et Dijon aussi derrière où tu gagnes. Tu fais une super prestation face à un Saint-Étienne, bon, qui n'était pas encore malade, mais pas loin. Mais ça fait un bon début de saison quand même là pour Angers.
Ah bah, d'autant plus que c'était complètement inversé par rapport au début de saison précédent où on avait enchaîné plutôt les défaites, voilà, et donc forcément ça nous met pas sur les mêmes rails, ça nous place directement plutôt en haut de tableau, donc forcément même si on sait qu'on va pas y rester, ça fait toujours un peu rêver, on s'y croit, on se prête au jeu, et je pense que les supporters, mais le club, les joueurs aussi, donc ça crée vraiment une dynamique, quoi. Démarrer une saison avec des victoires, ça crée vraiment une dynamique qui peut être, qui est pas un gage pour le maintien au final, parce qu'on sait très bien qu'une saison c'est long et que des coups durs peuvent arriver, des blessures, des mauvaises prestations, voilà. Mais en tout cas, c'est quand même vachement plus confortable que de démarrer par une série de défaites qui là, tu vas la traîner en fait tout au long de la saison. Donc ouais, je pense que notre classement, qui est quand même pas inintéressant en fin d'année, hein, en fin de saison, il est aussi lié à cette dynamique qu'on a su créer dès le début de la compétition.
Et du coup, à la mi-saison, Angers termine 8e. C'est une super prestation pour un club entre guillemets comme Angers. On est content là, la mi-saison.
Ouais, et encore, on aurait pu espérer plus haut, mais on a eu un
Parce
petit coup de
que,
mou
donc,
à la période de... Ouais.
comme je disais, à la fin, donc juste avant la mi-saison, il y a quand même trois défaites de rang, mais
Ouais.
théoriquement, déjà, Angers se place plutôt bien.
Oui. Quand on termine la mi-saison dans la première partie de tableau, disons qu'on se doute que la fin de saison va être quand même plus confortable a priori. Disons que même statistiquement, on va avoir moins de risques de lutter pour le maintien. Donc oui, forcément, c'est 8e, c'était très bien la mi-saison, même si, comme tu le dis, on avait malgré tout enchaîné trois défaites et qu'il fallait vite redresser la barre, quoi. Mais bon, ça a été fait notamment avec cette victoire à Nantes qui était un beau cadeau de Noël et puis qui nous a remis bien, ouais.
Après, il y a quand même un petit parcours en Coupe de France, bon, qui se termine par un match fou contre Rennes.
Complètement fou, ouais.
Mais c'était un petit bol d'oxygène, cette Coupe de France, non?
Oui, bah c'est sûr que nous les Angevins, on est resté la tête dans les étoiles depuis cette finale au Stade de France contre Paris là il y a 2 3 saisons, et c'est vrai que bah maintenant quand on joue cette compétition, on a toujours envie d'aller revivre ces émotions-là. C'était un tel moment incroyable, le partage entre toute la ville, tous les supporters, que on a envie d'y retourner, quoi. Donc bon, voilà, après on sait très bien avec comment c'est compliqué une compétition telle que celle-là. Et ce match contre Rennes était un match incroyable, magnifique, plein de buts, plein de suspense. Mais au final, on a perdu. Donc la soupe est toujours un petit peu plus amère. Hein.
Et le problème, c'est que derrière cette défaite, Angers concède 4 défaites de rang. Bon, c'est Reims, c'est Monaco, c'est Lille et c'est Nîmes, mais c'est 4 défaites qui font mal derrière une élimination, surtout pour
Ouais.
l'état d'esprit des joueurs.
Oui, complètement. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que je disais, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de coups durs. Et là, c'en est un. C'est une espèce de spirale un petit peu négative et qu'il faut savoir enrayer. Alors, dans ces cas-là, en plus, la pression monte très vite. Hein, dès que t'enchaînes les défaites en Ligue 1, voilà, la presse, les supporters, les observateurs, les suiveurs, tout le monde un petit peu commente cette mauvaise passe. Et ben voilà, c'est la force du coach Moulin que toujours essayer de trouver de trouver les solutions, de trouver les clés pour redynamiser l'équipe en faisant des petits changements par le discours, en rassurant aussi en disant que ben, vivre des défaites dans le foot, c'est finalement c'est un petit peu normal et que y a pas non plus de catastrophisme. En tout cas, faut pas sombrer dans le stress ou dans le catastrophisme et il faut essayer d'en tirer les points positifs pour mieux rebondir. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec ce groupe.
Et donc derrière cette série de 4 défaites, tu as 3 victoires d'affilée, Montpellier,
Voilà.
Brest et Nantes, pour arriver jusque donc à l'arrêt du championnat. Angers termine donc 10e. Bon, il y a Strasbourg derrière qui a un match en moins, mais bon, ça reste une 10e place.
Onzième, je crois. Non, il doit y avoir un ex-aequo. On doit être ex-aequo. Je ne sais plus. Je crois qu'on est 11e.
Non, 11e c'est Strasbourg, ils ont un point de moins, bon, un match en moins, mais ah, peut-être avec la différence. Bon, dans le pire des
Oui,
cas,
sûrement.
10 ou 11e, ouais, c'est un super résultat pour Angers. Le Covid, on
Ouais.
en pense quoi?
Bah, le Covid, on pense quoi? On se dit que, bon, forcément, on voit le verre à moitié plein et que, avec la dynamique qu'on avait retrouvée, là, on avait des joueurs qui étaient revenus dans une certaine forme, de manière très intéressante. Et on enchaînait encore des matchs contre des équipes de notre championnat, de notre niveau, entre guillemets, prenable. Et on se voyait peut-être aller un peu plus s'amuser à titiller les places d'honneur, on va dire, de ce championnat. C'est pas qu'un discours de supporter, parce que quand on entend le coach en fin de saison débriefer la saison, bah c'est un petit peu ce qu'il laisse entendre aussi, quoi. Voilà. Donc un petit peu cette frustration déjà de pas terminer une compétition, mais je crois que ça c'est surtout pour les joueurs hein, et les clubs de frustrer de pas aller au bout, et puis pour nous de ne pas voir ce qu'on aurait pu, voilà, qu'est-ce que ça aurait donné si on était allé jusqu'au bout. Mais bon, voilà, je te rejoins. Quand c'était encore l'objectif affiché, quand on se bat pour le maintien de pouvoir rester en Ligue 1, terminer la saison à la 11e ou 10e place, c'est une bonne performance, bien sûr.
On va revenir maintenant sur les individualités du SCO d'Angers. Dans un premier temps, pour toi, c'est qui le joueur qui fait la meilleure saison?
Le joueur qui fait ah bah c'est Baptiste Santa Maria, ouais. J'ai commencé à réfléchir, mais très vite le nom revient en tête. Déjà parce qu'il a été désigné par le site et le forum SCO 1919 comme le meilleur joueur de la saison. Mais parce que il est, je pense, unanimement reconnu comme le joueur pivot en fait de cette équipe, un numéro 6 qui connaît pas la fatigue, qui est le meilleur coureur du championnat de Ligue 1. C'est celui qui fait le plus de kilomètres en compétition. Il a acquis une maturité qui lui permet vraiment d'avoir un très très bon déplacement, une capacité à lire le jeu qui l'a rendu indispensable. Alors voilà, s'il doit partir, il faudra bien le remplacer, mais qui l'a rendu en tout cas très important dans le système de jeu de cette saison qu'a mis en place Stéphane Moulin.
Comme tu le disais tout à l'heure, les joueurs au SCO d'Angers, dès qu'ils passent un cap, il y a voilà les autres clubs qui vont être intéressés. Toi, Santa Maria, tu le verrais où?
Difficile. S'il devait partir, s'il devait rester en championnat de France, je le verrais dans un des clubs forts de ce championnat. Je ne sais pas, Lyon. Je pense que ce serait bien inspiré de pouvoir se pencher sur son cas pour remplacer, je crois, Lucas Touzard qui doit partir. J'aurais dit Marseille aussi, mais ils viennent de prendre Pape Gueye qui joue dans un registre similaire.
On va en parler justement de Pape Gueye qui était
Ouais,
déçu
voilà.
de
Donc
l'Angers.
bon bah il est parti là-bas, donc je pense que c'est pas fait maintenant pour Baptiste Santa Maria, mais voilà, enfin en tout cas dans un des clubs forts de ce championnat, il y a toute sa place et il a tout à fait sa place dans un club qui joue l'Europe.
Ouais.
Après, ça peut être ouais, il peut être tenté aussi par des clubs à l'étranger. Je pense que le championnat anglais pourrait lui convenir. Je sais d'ailleurs qu'il y a déjà des clubs qui ont un œil sur lui, mais en Espagne aussi. Enfin, je crois qu'il est pas mal sollicité dans pas mal d'équipes de l'Europe. Donc, après, à voir si le projet lui conviendra et si l'offre qui sera formulée au club pourra être acceptée par le SCO.
Maintenant, je vais te poser la question inverse. Pour toi, c'est qui le joueur qui t'a le plus déçu cette saison à Angers?
Ben, je vais revenir sur Ninga en fait, parce que
D'accord.
voilà, ce joueur qu'on a quand même fait venir contre une indemnité de transfert, je crois de mémoire, de 3,5 millions,
Ouais, c'est ça.
ce qui est pas rien, hein. Ben, j'avoue qu'il a un rendement qui est pas à la hauteur de son talent, parce qu'il a un vrai talent, et de ce qu'on peut en attendre, quoi. Et il est trop sur. Alors là, je parle encore, c'est mon jugement, hein, à titre
Ouais.
personnel, mais j'estime qu'il est trop sur courant alternatif. Et finalement, ce qui m'inquiète, c'est un petit peu ce qu'on a pu voir de lui aussi dans ses précédentes saisons, au sein de ses précédentes formations, quoi. Donc voilà, maintenant, ça fait un an qu'il est au SCO. Je doute pas que le staff a travaillé avec lui. Et apparemment, je sais que là, depuis la reprise de l'entraînement de la nouvelle saison, il se montre plutôt à son avantage dans les oppositions. Donc voilà, les observateurs qui suivent tout quotidiennement le SCO l'ont trouvé plutôt bien. Donc à voir,
D'accord.
peut-être que il pourra bien démarrer. Mais voilà, il va falloir vraiment qu'il travaille sur cette régularité, quoi, parce que ça le pénalise, en tout cas, ça l'a vraiment pénalisé dans ses performances l'année dernière.
Oui, parce qu'on l'a vu, il a pris un coup de chaud là contre Saint-Étienne en début de saison, il met son triplé
Ouais.
et derrière c'est compliqué. Et si je me trompe pas, je crois qu'il met
Ouais.
peut-être un ou deux buts de plus que son triplé, mais c'est tout, ça va pas chercher plus loin. C'est
C'est
compliqué
ça,
pour
et
lui.
puis des rentrées qui sont un peu décevantes, où il donne beaucoup d'énergie, hein, attention, il
Oui,
se
oui.
donne sur le terrain, mais de manière un petit peu désordonnée. Et puis bon, la dernière note qui a plutôt été négative, c'est ce côté un peu brouillon, et notamment ce match à Nîmes où il va blesser assez durement un joueur nîmois, je crois que c'est Serrat. Voilà, sur un pied haut, un peu maladroitement, quoi. Mais bon, c'était un peu à l'image de sa saison, quoi. Ouais, un côté un peu maladroit quand en dehors de ce coup de chaud, comme tu disais, sur Saint-Étienne, où il avait vraiment brillé par sa justesse technique et sa capacité d'accélération. Le reste, ça a été un petit peu plus brouillon. Mais bon, voilà, je ne veux pas lui jeter la pierre, parce qu'on sait très bien qu'une saison, c'est compliqué, et il faut s'adapter dans son nouveau club, mais déçu parce qu'on attend mieux de lui, en fait.
Bon, et on va revenir maintenant sur le mercato, sur ce qui se déroule actuellement. Bon, on est mi-juillet, il y a encore beaucoup de mouvements qui peuvent arriver jusqu'à la reprise de la saison.
Oula, oui.
Mais actuellement, Angers, à l'heure où on parle, a officialisé le transfert, pardon, du côté des départs de Vincent Pajot à Metz. Et
Oui,
du
qui avait été
côté.
prêté toute la saison, donc c'est un départ logique, je dirais. Il n'a pas vraiment réussi à s'imposer. La faute aussi un petit peu à Baptiste Santamaria, qui lui a pas laissé beaucoup de temps de jeu. Mais oui, c'est assez logique.
Et des arrivées donc de Paul Bernardoni de Bordeaux pour 7,5 millions. C'est une grosse somme pour Angers.
Énorme.
Et c'est un gardien qui à la fois a un potentiel énorme. On en pense quoi là? C'est la grosse recrue là.
Ouais, on en pense quoi? On est forcément enthousiaste, en fait, de voir une telle pointure arriver au SCO.
Ouais.
Justement, en principe, ce genre de joueur, c'est pas fait trop pour nous, quoi. Ils partent plutôt du SCO pour aller dans un autre club. Et donc de voir Paul Bernardoni, qui est un gardien qui a fait vraiment ses preuves en Ligue 1 depuis maintenant quelques saisons, qui est un régulier de l'équipe de France dans les équipes de catégorie jeune, ou aujourd'hui maintenant en espoir. Qui a encore une belle marge de progression, parce qu'il reste jeune, il a 23 ans. Et puis voir le SCO investir autant, 7,5 millions, c'est vraiment, bon, bah, c'est le plus gros transfert de l'histoire, hein, du SCO. Le précédent, c'était déjà avec un joueur de Bordeaux qui était Crivelli, et Enzo Crivelli. Bon, alors ça s'était pas très très bien passé l'histoire après, donc j'espère que là ça se déroulera mieux. Mais bon, la nouvelle enveloppe des droits télé, on voit quand même, ouvre de nouvelles perspectives. Je pense qu'on n'aurait pas pu se permettre ça avant. Mais le SCO s'est positionné très très tôt sur Paul Bernardoni. Ça faisait déjà plusieurs saisons qu'il le suivait, avant même les prêts qu'il a pu connaître. Je sais que le coach Moulin le suivait et aurait voulu le faire venir, mais voilà, les circonstances ne s'y prêtaient pas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas oublié, il se savait voulu. Et donc c'est la rencontre, en fait, entre un joueur et un club, là, qui se fait. Donc on va espérer que ça se passe bien, et qu'on va pouvoir lui faire progresser, lui faire passer lui aussi une marche. Et là, pour le coup, si on lui fait passer une marche, ça pourrait être une marche vraiment haute, pour l'emmener vers un grand club, ou vers même l'équipe de France, parce que il en a sans doute le potentiel.
Alors moi quand j'ai vu le transfert arriver de manière officielle, d'abord je me suis dit que c'est une super recrue pour Angers, d'abord dans un premier temps, mais ça on peut pas le nier.
Ouais.
Je trouve pas que ce soit forcément trop payé, loin de là. c'est un super
Non, moi
joueur,
non
un
plus.
super gardien. Et je trouve en fait que côté Angers, c'est le joueur qui fallait pour encore passer une étape au-dessus. Pour moi, je trouvais que ces dernières saisons, c'était le poste de gardien de but qui était un peu plus compliqué. Et là, c'est le joueur qui te faut quoi, pour passer encore un cap dans cette Ligue 1.
Ouais, c'est toujours super compliqué le poste de gardien de but parce que quand quand ça se passe bien, ça va, ça se passe pas, on va parler d'autre chose. Par contre, dès qu'il y a des difficultés, ça va un petit peu cristalliser autour de ça. Et c'est vrai que ces dernières saisons, on a eu un petit peu de mal. Alors Ludovic Butel, tout le monde l'adore sur Angers, hein. Voilà. Et d'ailleurs, on est très content que a priori il puisse rester au sein du club comme numéro 2, et donc il va épauler Paul Bernardoni, apporter toute son expérience et puis aussi garder ses valeurs humaines qu'il a au sein du groupe. Il nous avait fait monter en Ligue 1 et il avait fait une première partie de saison quand on était monté lors de notre première saison exceptionnelle. Il avait été vraiment très bon, ce qui lui avait permis après d'aller jouer la Champions League en rejoignant Bruges. Et derrière Angers, on avait galéré avec des histoires de gardiens qui étaient un petit peu en difficulté en fait dans la continuité, hein. On a eu Le Tellier, voilà. Enfin, ça a été très compliqué.
Le
Ludovic Butel est
Tellier, qui est d'ailleurs
revenu.
aujourd'hui en Norvège, voilà, pour prendre
Ouais,
les images.
mais il est revenu depuis, hein, et puis enfin ça a été compliqué la suite du parcours pour Alexandre aussi, mais et donc c'est vrai qu'il était revenu, Ludovic Butel, il nous avait fait du bien à son retour, et bon voilà, maintenant c'est un gardien qui a 37 ans, et même si on peut être encore un gardien de très haut niveau, et c'est ce qu'il est, c'est vrai que peut-être qu'il a montré en début de saison cette année que sur certains réflexes, sur certaines prises d'initiative, ça pouvait être un peu plus compliqué. Et c'est vrai que il y a peut-être des points qu'on a laissés en cours de route dans ce contexte-là. Et puis son numéro 2, Petkovic, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais c'est vrai que quand il en a eu, il n'a pas non plus toujours été irréprochable. Donc voilà, on tâtonne en fait depuis pas mal de saisons. Et je pense que là, en venant avec un Bernardoni comme ça qui va venir, parce qu'en plus il a du charisme, donc je pense qu'il va venir vraiment prendre l'espace derrière. Animer la défense et puis et incarner cette force au niveau du gardien. Je te rejoins, ça peut vraiment nous apporter quelque chose.
Ouais, on va revenir aussi sur la deuxième recrue du SCO d'Angers, bon un peu plus brièvement parce que c'est moins clinquant entre guillemets, mais c'est Souleymane Doumbia qui rejoint définitivement donc Angers
Ah oui.
après un prêt la saison passée. C'est un bon joueur là aussi, c'est une bonne recrue pour 3 millions d'euros ou pas?
Ah oui, ouais, je pense que. Alors, on connaît pas vraiment le montant du transfert. Ça n'a pas été très, enfin, vraiment communiqué, mais en tout cas, 3 millions, c'était la somme qui était assortie à son prêt de la part de Rennes. Donc, on peut supposer que l'indemnité de transfert se situe autour de ce niveau-là. Mais oui, on est plutôt satisfait de le voir rester parmi nous parce que les matchs où il a pu jouer donc en remplacement de, excuse-moi, de Ryan El-Khoury, qui avait été gravement blessé à la mâchoire. Il a plutôt montré de très belles choses et c'est quand même un joueur qui a de l'explosivité, qui est porté vers l'avant et je pense qu'il a un gros potentiel qu'il n'a pas encore tout à fait pu exploiter. Il était barré à Nantes, à Rennes par d'autres joueurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est que lui aussi, il avait le sentiment de pas avoir tout à fait fini son chemin avec Angers. Et donc là encore, c'était une volonté partagée du joueur et du club que de le faire revenir ici. Donc on est très content. Le petit bémol, c'est que peut-être que ce recrutement, ça veut dire que Ryan El-Khoury ne restera pas avec nous, parce qu'on imagine mal deux joueurs de ce niveau se tirer la bourre sur une saison. Bon, même si on se doute, hein, que Ryan El-Khoury était déjà très courtisé l'année dernière et que cette année ce sera sans doute le cas aussi, hein. Il y a des grosses écuries qui sont sur lui. Et puis récemment, on voit qu'il y a des rumeurs d'un autre latéral gauche qu'on retrouve sur Internet. Donc c'est pas pour faire un troisième joueur latéral, c'est sans doute pour faire la doublure de Souleymane Doumbia. Donc voilà, Ryan va sans doute partir, on aura Souleymane et on est très satisfait de pouvoir garder ce joueur sur lequel on a pu pouvoir compter. Avant la fin de la saison de manière prématurée.
Tu parlais justement de Ryan El-Khoury, qui devrait très probablement quitter Angers, comme tu le disais. C'est un super joueur avec un potentiel exceptionnel à développer. Pour l'instant, tu sais où est-ce qu'il peut aller ou pas? À l'heure où on parle?
Non. Non, vraiment aucune idée. Je sais que quand il y avait des rumeurs un petit peu de clubs qui s'intéressaient à lui, là on parle vraiment des très grands quoi, hein. Les rumeurs c'est Manchester City, Real de Madrid, enfin voilà, c'est des très très grands clubs qui voient en lui un potentiel qui est énorme. Ce qui est drôle, c'est que on voit que le joueur est très bon, il a le sens du jeu, etc. Mais on devine pas encore peut-être une future star qui peut être demain. Mais par contre, c'est simplement quand on regarde son âge et sa capacité, son aisance à, en fait à pouvoir enchaîner les échelons et les échelons supérieurs. Hein. Il est surclassé quasiment dans toutes les équipes dans lesquelles il joue. Bon, et voilà, il a commencé à 17 ans en Ligue 1. Aujourd'hui, il joue avec les espoirs, alors que justement, il pourrait jouer dans des catégories de jeunes en dessous. Donc, enfin voilà, c'est ça qui est impressionnant. Et puis avec beaucoup de simplicité. C'est un garçon qui a l'air d'avoir vraiment les pieds sur terre, qui a l'air d'être bien entouré, et ce qui lui donne encore plus de force, hein, puisqu'on sait que des fois, c'est ce
L'importance
qui peut un
en
petit peu
football.
jouer. Ouais, exactement. Des fois, c'est comme ça que les jeunes joueurs peuvent se brûler les ailes. Donc, il a vraiment. Et puis, il est pas trop pressé. Voilà, cette année, il était vraiment content d'être sur Angers, de rester à peaufiner son évolution. Donc voilà. Donc, je sais pas où il pourrait aller, mais en tout cas, on le souhaite. Il est vraiment ciblé par des grosses grosses écuries. Alors voilà. Est-ce qu'ils vont le prendre et puis après peut-être le prêter à un club d'un autre niveau pour continuer de s'aguerrir? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Il y a peu de choses qui ont filtré là ces derniers temps par rapport à son cas.
Bon, et enfin, on va finir sur Angers avec un point important du SCO d'Angers. Et c'est vrai qu'on me l'a rappelé quand on a notamment fait un podcast avec le Stade Brestois. Angers devient clairement la référence du promu qui se maintient chaque saison. Ça fait maintenant quelques années hein, qu'Angers est en Ligue 1, avec un maintien plutôt large même maintenant. La stabilité, et c'est vraiment la ligne de mire de Angers. Il y a Stéphane Moulin qui coach depuis la remontée. C'est exceptionnel d'avoir un club aussi bien géré. Même si on a le temps, on parlera un petit peu d'Olivier Piqueux. L'affaire Piqueux, c'est compliqué. Mais voir Stéphane Moulin encore coach du club, qui réussit chaque année à faire gravir des échelons à Angers, des joueurs comme Mangani rester encore et encore à ce niveau-là, au niveau Ligue 1, pour maintenir Angers, c'est incroyable.
Ouais, c'est sûr. Là, on va entamer notre sixième saison depuis la remontée. Donc, on vient de passer un cycle en fait. Le premier cycle qui était annoncé par les dirigeants quand on est monté en Ligue 1, c'était objectif à 5 ans le maintien. Et donc année après année, bah, c'est ce qui s'est passé. Et comme tu le disais, avec des positionnements qui étaient plus ou moins intéressants, mais enfin toujours, on n'a jamais eu le maintien sur le fil. Donc c'est ça qui était important, hein, c'est qu'on arrivait à se maintenir quelques journées avant la fin, donc en s'évitant trop de stress et de sueur froide. Et ouais, moi je suis parmi de ceux qui tiennent Stéphane Moulin en grande admiration. J'aime beaucoup cet entraîneur parce que c'est un entraîneur qui sait ce qu'il veut, mais en même temps qui a beaucoup de modestie. Il réussit en fait à grandir avec le club. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de joueurs qui arrivent à franchir des paliers avec le SCO, mais ce coach en fait lui aussi franchit des paliers, mais en n'attirant pas la lumière sur lui, en continuant de focaliser la lumière sur le groupe. Et puis bah, c'est un enfant presque du SCO, hein. Il a été joueur aussi au SCO, donc on le connaît depuis des décennies maintenant, c'est comme ça qu'on peut dire. Donc voilà. Et puis j'aime sa philosophie de jeu, parce que même si au départ on décrivait le jeu du SCO comme un jeu ultra défensif, on mettait des goalgottes derrière et au milieu et puis on balançait devant, en fait c'est pas ça la philosophie de Stéphane Moulin. Je pense qu'il simplement il construisait les bases, les fondations d'une maison, bah, ça commence par sécuriser, on va dire, le but, sécuriser la défense. Et on a vu qu'aujourd'hui, il a vraiment entamé une mue, la saison dernière. On a apporté vraiment du jeu en mouvement, de la technique. On a des joueurs justement de bon niveau technique qui viennent renforcer le groupe et qui peuvent apporter ces touches-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a tellement été déçus de voir partir Jeff Reyna-Adelaïde, parce que on se disait que là, on pouvait encore aller plus vite. Bon, ça n'a pas été le cas, mais de ce que j'ai pu lire des interviews de Stéphane Moulin, il se projette vraiment encore dans cette évolution du jeu. Et donc c'est pour ça qu'on a hâte de la prochaine saison, parce que déjà on a un groupe qui globalement aujourd'hui, on verra à la fin du mercato, mais n'a pas beaucoup évolué. Et puis il se renforce même quoi. Donc Et puis, il y a un groupe qui n'évolue pas beaucoup, c'est des joueurs qui prennent confiance entre eux, qui se connaissent bien, qui ont des automatismes et des repères. Et donc, ça peut donner une qualité de jeu qui est intéressante. Donc, oui, on est très fiers de ça, de ce maintien, de cette stabilité, même si cette saison, elle a aussi donné lieu à quelques difficultés sur le plan un peu interne. Et on va voir comment ça se passe du coup pour la saison à venir.
Tu fais parfaitement la transition jusqu'à la saison prochaine. Angers va encore évoluer en Ligue 1, et va encore peut-être passer un cap avec cet effectif-là. On a pu l'entendre parce que tu disais, tu es carrément optimiste sur Angers la saison prochaine, et tu as envie donc de voir Angers encore en Ligue 1 l'année prochaine, et encore sauter encore un palier. Ce serait quoi l'ambition là de d'Angers pour la saison prochaine?
Bah, l'ambition, alors après, faut pas non plus se voir plus beau qu'on est, et on reste un club avec des moyens entre guillemets limités. En tout cas, on aura clairement l'année prochaine pas le par parmi les plus gros budgets, même si petit à petit, à chaque fois, on arrive à étoffer un petit peu cette enveloppe budgétaire. Mais ce serait bien de pouvoir viser la première partie de tableau. Voilà, essayer de mettre un petit peu le spectre de la relégation derrière nous, et du coup d'essayer de viser plus haut avec beaucoup d'humilité. Et puis si ça se passe mal en cours de saison, très vite recadrer ça et en visant le maintien. Mais peut-être que voilà, comme dit Moulin, à chaque fois on vise le maintien. En tout cas sur les 5 dernières saisons, on vise le maintien et puis on obtient un petit peu mieux. Donc moi j'ai envie de dire on vise le milieu de tableau, et puis on verra si on est capable d'obtenir un petit peu mieux.
Très vite, en un ou deux mots,
Ouais.
l'Europe, c'est un rêve caché.
Ben voilà, je crois que t'as deviné mon arrière-pensée. C'était un rêve caché. Après, ça me fait toujours un petit peu peur parce que les équipes qui jouent l'Europe, quand elles n'ont pas les reins assez solides ou les assises en termes d'effectifs ou de budget, des fois, ça peut être un retour de bâton très très dur. On l'a vu par le passé. Donc, mais bon, après, si on joue en Ligue 1, c'est quand même pour essayer d'aller le plus haut possible. Donc, ouais, on aimerait bien. C'est vrai qu'on irait un petit peu de s'arranger. Ouais.
Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Merci à toi d'avoir répondu à toutes les questions.
Je t'en prie.
C'était très sympa. On se retrouve donc dans un prochain podcast avec un autre club. Aujourd'hui, c'était Angers. Merci à toi d'avoir répondu, et puis bonne saison au SCO l'année prochaine.
Merci Anthony, et puis bonne continuation pour tes émissions.
Merci.